Matière à penser, René Friedman.
Matière à penser, une émission de René Friedman en partenariat avec le quotidien du médecin. Aujourd'hui, nous sommes dans la restructuration de la médecine en France et un des chapitres importants, c'est la place de l'éthique. Nous connaissons donc les interventions du Comité consultatif national d'éthique sur un certain nombre de sujets, mais pas forcément sur le sujet de ce soir. Et c'est intéressant d'avoir avec nous le président Jean-François Delfraissy, immunologiste de formation, spécialiste du VIH et président de ce Comité consultatif national d'éthique depuis 2016 et renouvelé tout récemment. Donc nous sommes sur une thématique qui est: y a-t-il un besoin d'éthique dans l'innovation médicale? On parle beaucoup d'innovation médicale, thérapeutique, pharmaceutique. La question qui est posée, que se pose le Comité national d'éthique et son président, c'est est-ce que vraiment on peut appliquer simplement le primum non nocere, c'est-à-dire d'abord ne pas nuire dans toutes les innovations que l'on veut faire? Est-ce qu'il faut aller plus loin? Alors, pourquoi cette interrogation, Jean-François Delfraissy?
Probablement parce que l'innovation est au cœur de la réflexion. Elle est mise en avant par tout le monde, à la fois par les chercheurs eux-mêmes, par les politiques. Tout pousse à l'innovation. Elle a jamais été aussi rapide. Hein. On admet que il y a un renouvellement des connaissances de 50% des connaissances en biologie santé tous les 5 ans. Et enfin, elle est particulièrement rapide dans le domaine de la thérapeutique et probablement aussi de certains objets, de dispositifs non médicaux sur lesquels je reviendrai. Mais il y a une véritable innovation autour de la thérapeutique. Donc tout ça, c'est très positif. On ne peut être que pour l'innovation, à la fois quand on est médecin, quand on est chercheur et évidemment quand on est patient. On souhaite bénéficier des progrès les plus récents. Et pourtant, ça pose un certain nombre de questions qui sont les suivantes. Cette innovation, et on va y revenir en plus en détail, elle a un coût qui devient maintenant exorbitant. Et est-ce que nos sociétés vont être capables de faire face à ces coûts? Quels choix vont-elles faire? Ce qui va être mis dans l'innovation en termes de coûts de santé, si on est à une masse budgétaire équivalente, eh bien ça va se faire au détriment d'autres choix de santé. Donc on est bien dans des questionnements éthiques de comment construit-on finalement les décisions autour de la santé.
Jean-François Delfraissy, on va revenir bien sûr sur ce thème du coût, et particulièrement pour un certain nombre de médications tout récemment. Et d'ailleurs, dans cette émission, nous avons reçu un certain nombre de gens sur les progrès en immunologie, ce qui est votre domaine d'ailleurs, que vous connaissez très bien, avec des nouveaux médicaments et des nouveaux concepts sur le traitement du cancer. Donc on est là face à un désespoir important, important. Mais ma question, elle est l'esprit d'innovation. Déjà, est-ce que il y a des pays, on voit bien quand on calcule le nombre de brevets qui sont déposés par pays, il y a des pays qui ont une culture de l'innovation, qui forcent sur l'innovation, et d'autres qui appliquent. Et donc, comment vous expliquez cela?
Si on regarde sur l'innovation en termes, par exemple, de médicaments, force est de constater que la quasi-totalité des grandes découvertes médicamenteuses au cours des 30 dernières années, elle s'est fait, je dirais, dans un monde, dans le monde de l'Ouest, hein, et qui a assez peu de choses qui est sorti à la fois, je dirais, des pays socialistes et puis des pays du Sud. Donc c'est vraiment très lié à l'industrie pharmaceutique qui a su créer un environnement pour innover sur un certain nombre de grandes pathologies. Le modèle néanmoins vient de changer depuis 4 ou 5 ans. Moins de recherches faites au niveau des grands groupes pharmaceutiques, beaucoup plus de recherches qui sont réalisées par des jeunes start-up, qui sont elles-mêmes rachetées ensuite par l'industrie pharmaceutique.
Car le modèle a changé. Avant, c'était...
Avant, on avait une recherche qui était construite par des départements de grands industriels qui investissaient dans la recherche avec des équipes entières. Et tout ça est en train de disparaître, et la majorité des grands laboratoires pharmaceutiques n'a plus maintenant d'équipe de recherche.
Il laisse faire les jeunes
qui se créent. Il laisse faire les jeunes startups, les jeunes pousses, entre guillemets. Et ensuite, ils viennent les racheter, ils vont acheter ce qui leur paraît d'intérêt ou laisser sur le côté d'autres. Et ensuite, ils vont plutôt avoir un aspect de développement et non pas de recherche. Hein. Donc le modèle a changé et il est en train de se généraliser. Et donc là, ça pose la question de comment se situe dans les différents pays et comment se situe la France dans ce modèle. S'il faut construire des jeunes startups qui elles-mêmes vont être, je dirais, avoir comme destin de construire une nouvelle molécule et d'être éventuellement rachetée, est-ce que la France est bien placée là-dessus? Et probablement la réponse est non. Et on a modèle français qui n'est pas optimal parce que on a de très bons chercheurs, on a des jeunes startups qui débutent, mais le modèle n'est pas dans un modèle à l'anglo-saxonne de construction, de financement qui leur permet de se développer avec la rapidité suffisante par rapport à ce qu'on observe, par
mais
exemple.
Mais je reviens sur cette notion de culture. Moi, j'ai eu l'impression, c'est un peu notre génération. Quand nous voulions innover, et vous avez innové comme d'autres équipes ont innové, on cherchait à innover, il n'était pas question de se lier à la loi du marché ou d'envisager même de déposer des brevets, si brevets il y avait. En tous les cas, d'avoir un esprit qui pouvait rentrer dans le système commercial. Le système commercial nécessaire, ne serait-ce que pour réinvestir pour d'autres recherches. Et il n'y avait pas cette culture-là. Et elle a un peu changé avec la création, la possibilité maintenant pour des chercheurs de créer des startups et tout ça, et éventuellement, s'ils sont sur le bon créneau, de faire bingo, hein, je veux dire, pourquoi pas. Quand vous dites qu'on n'a pas le bon modèle, est-ce que ce changement n'est pas assez prononcé? Est-ce qu'il est à risque? C'est-à-dire de vouloir développer que des choses qui soient utilisées pour l'immédiat? Au lieu de faire la pure et dure recherche fondamentale qui un jour peut-être trouvera un débouché. Est-ce que c'est ça la question?
Alors, on est resté dans un modèle français un peu au milieu du guet. C'est-à-dire qu'on a demandé aux jeunes équipes de penser à faire de la recherche avec éventuellement de prendre des brevets et de se mettre dans une stratégie de construction de start-up sans leur en donner les moyens totalement. Et puis de l'autre côté, oui, il y a un risque. Il y a un risque qui est de négliger et de sous-estimer la valeur essentielle de la recherche fondamentale, de recherche sans a priori, sans visée à court terme ou à moyen terme de développement, et qui peut déboucher sur, par contre, des avancées majeures, même si elles n'étaient pas au départ. Enfin, ce qui est souvent donné comme exemple, mais que tout le monde comprend, c'est par exemple toute la recherche en physique d'il y a 20 ans, 30 ans sur le Doppler et qui a révolutionné ensuite une partie de la radiologie avec les échos Doppler, alors que c'était pas du tout fait pour ça initialement la recherche en physique. Donc le risque, il est de vouloir trop aller vers un monde qui serait uniquement de construction de jeunes start-up et de négliger la recherche fondamentale. La recherche fondamentale, sans a priori, c'est fondamental et le modèle français doit continuer à le défendre. Mais de l'autre côté, dans ce qu'on laisse aller vers les start-up, on n'est pas allé jusqu'au bout, probablement, du développement. Et les gens le reconnaissent volontiers, en disant que la majorité des découvertes qui ont pu être faites, y compris par des équipes universitaires ou financées par des grands organismes de recherche en France, a été rachetée, finalement, par des plus grosses start-up anglo-saxonnes et n'ont pas pu avoir un développement en France.
Est-ce que vous pensez que on a un frein, particulièrement en France, justement, autour de la déclinaison de ce qu'on appelle le principe de précaution, qui est de temps en temps mis en avant comme salutaire et de temps en temps mis en avant comme un frein justement à l'esprit d'initiative, à l'esprit de la volonté d'innover.
Ce principe de précaution a probablement atteint son summum en effet dans le domaine de la santé. Il est issu, rappelons-le, hein, de plusieurs visions, mais une vision essentielle quand même a été l'affaire du sang contaminé. Et la vision qu'ont eue les politiques à ce moment-là de se mettre un modèle qui permette de structurer et puis de protéger l'ensemble. Ce qui partait d'une bonne intention. Et puis s'est mis ensuite une série d'agences de régulation qui existent en France et qui sont probablement à un niveau très important. Et beaucoup de jeunes chercheurs actuellement le ressentent en tant que tel. De l'autre côté, quand je vois l'effort qui a été réalisé au cours des 20 dernières années pour finalement respecter le droit du patient, le mettre au cœur du débat, y compris de la recherche dans ses phases initiales, dans les phases 1 et les phases 2, c'est un immense progrès par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, comme toujours, il y a un juste équilibre à trouver entre trop de principes de précaution qui peut freiner, et puis inversement, si on devait repartir en arrière et laisser sur la route un certain nombre de grandes valeurs associées aux principes de précaution, ça serait une erreur. Parce que la recherche a changé, la place du patient est au cœur de ce point, et ça, c'est une avancée majeure. Mais je pense qu'en fait, tout ça va être profondément modifié parce que la recherche elle-même et en recherche clinique et translationnelle va beaucoup changer avec l'arrivée de tout ce qui est autour des big data, des grandes bases de données qui vont profondément modifier l'acquisition des connaissances dans les années qui viennent. Et où là, le principe de précaution va être remis en point d'interrogation, ainsi que le principe même du qu'est-ce que veut dire un consentement quand on est, je dirais, un bout d'une grande base de données. Et ça va probablement beaucoup changer les choses dans les années qui viennent.
Est-ce que, si on reprend la phrase du professeur Jean Bernard, qui a été le premier président du Comité consultatif national d'éthique, il disait « ce qui n'est pas scientifique n'est pas éthique ». Ce qui veut dire que il faut revenir aux règles de fonctionnement de la recherche et appuyer donc la volonté d'innovation sur une recherche bien faite avec les étapes nécessaires. Est-ce que dans ce sens-là, lorsqu'on parle du principe de précaution, finalement, les gens y mettent un peu ce qu'ils veulent, c'est-à-dire selon les tendances, on est progressiste, on est plutôt conservateur, on a envie de faire bouger comme ça. Est-ce que c'est pas un principe de précaution des conditions de la recherche qui, lui, s'imposent. C'est-à-dire, véritablement, il y a des règles de fonctionnement, de mise en œuvre, tenir compte de s'il y a des phases 1 où les êtres humains participent donc à la recherche sans intérêt personnel, mais simplement pour démontrer que le médicament ne va pas provoquer tel ou tel, donc c'est des risques. Enfin, tout ça, c'est très encadré. Mais les conditions de la recherche, eux, à mon avis, doivent avoir le principe de précaution. Maintenant, le principe de précaution sur les objectifs d'une recherche qui n'est pas encore menée, est-ce que c'est pas contradictoire sur la liberté de la recherche que vous évoquiez? Vous voyez ce que je veux dire? Je voudrais peut-être, hein, ça me vient en discutant avec vous, c'est séparer le principe de précaution des conditions de la recherche, de consentement, je dirais les différents passages au comité de protection des personnes et de la recherche. Enfin voilà, toute une structure qui, elle, s'impose pour ne pas dériver. Et puis, par ailleurs, une liberté, alors que nous avons, et je reviendrai sur quelques exemples, des confusions entre les idéologies et des objectifs poursuivis et qui impactent sur la recherche. On en dira un mot tout à l'heure.
Non, je suis assez d'accord sur l'analyse. Hein, c'est... sur les conditions de la recherche, oui, il y a une acquisition vraiment de points fondamentaux, je pense, en France, enfin, et dans l'ensemble des grands pays européens, d'ailleurs, hein, puisqu'on a des modèles qui sont assez proches, qui étaient nécessaires, hein, et qui sont construits autour de la place du patient, hein, et vraiment autour de... On construit une recherche avec quel objectif? Sur les objectifs même, C'est en effet plus compliqué, parce que le patient ne sait pas lui-même quel est toujours le bon objectif. L'imagination et l'ingéniosité des équipes de recherche, elle doit pouvoir s'exprimer. Et on doit pouvoir explorer des solutions qui paraissent comme ça, dans un premier temps, différentes ou qui vont être des solutions de rupture. Et pourtant, il faut permettre ça. Et c'est fondamental qu'on y arrive. Je pense que le modèle français permet de le faire. Il y a encore, même s'il y a des freins, on peut poser des questions de recherche qui sont des questions de rupture. Et il faut qu'on continue à pouvoir le faire. Mais dans un contexte où il y a une explication et une information vis-à-vis de nos patients citoyens, qui doit se faire dans les meilleures conditions. Et je dis ça d'autant plus que dans le cadre des états généraux de la bioéthique, ce qu'on a entendu quand même vis-à-vis des médecins et des chercheurs, c'est un début de questionnement, hein, de la part de questionnement, quels sont leurs liens d'intérêt pour les médecins avec l'industrie pharmaceutique, et est-ce qu'ils sont totalement libres? Pour les scientifiques, comment se fait-il qu'on ait une série de résultats qui ne soient pas retrouvés, avec un certain nombre de résultats qui sont faux? Ce modèle existe, vous le savez, dans le modèle anglo-saxon, où depuis longtemps il y a un climat de défiance qui existe de la part des citoyens, en particulier aux États-Unis. En France, on l'a évité jusqu'à maintenant. Toute la construction de notre relation s'est faite dans un climat de confiance. C'est quelque chose de fragile. Donc il faut qu'on le maintienne, et c'est à la communauté médicale et scientifique aussi d'en avoir conscience. Pour ça, de l'information, de la clarté, de la transparence, de la transparence, de la clarté, de l'information.
Parce que je prends le dernier livre de Céline Lafontaine sur le corps marché, la marchandisation de la vie humaine, et qu'il y a cette histoire qui date déjà un peu de ce patient pour lequel il y a eu une intervention sur la rate par un médecin aux États-Unis, qui ensuite, ce patient survit et se rend compte que son tissu a été utilisé pour faire un brevet qui a rapporté 15 millions de dollars. Donc c'est tout le problème du lien entre une volonté d'avancer scientifique et justement le respect du patient. Est-ce que vous pensez que ce point-là est relativement cadré dans notre pays, voire en Europe, puisqu'on va parler Europe?
Il est assez bien cadré dans les pays européens, mais ça reste une fois de plus quelque chose de fragile. Moi, mon impression de médecin en fin de carrière, c'est que la notion de business et santé n'a jamais été aussi forte que maintenant. Et on a vu un modèle d'accès à l'innovation, de grands laboratoires mettant dans leur message « Nous sommes à l'origine de l'innovation et de nouveaux médicaments pour le bien-être humain ». Et on est passé maintenant dans quelque chose qui relève beaucoup de l'économie. Là où il y a un véritable problème sur la question que vous me posez sur la notion des brevets à partir de tissus humains, là où il existe et qu'il est majeur, ou de prélèvements sanguins, c'est tout ce qui est réalisé dans la recherche dans les pays à ressources limitées, dans les pays du Sud, hein, où là, un certain nombre de, en particulier dans le domaine des maladies infectieuses, où c'est là où sévissent encore un certain nombre de grandes pandémies, et où les découvertes qui peuvent être réalisées, souvent réalisées par les équipes du Nord, s'appuient sur des prélèvements issus de prélèvements africains ou asiatiques. Et on voit bien maintenant la revendication très forte d'un certain nombre à la fois d'associations, mais aussi de pays et de politiques de ces pays, pour dire, mais après tout, nous avons droit aussi à un certain nombre de brevets et à participer à ces brevets-là. Donc, un manque, la notion quand même finalement qu'on introduit, nous avons droit au brevet, c'est-à-dire qu'il rentre dans le modèle de business et santé, nous avons droit au brevet, et avec les limites de ce que ça peut représenter.
Au moins une part du brevet.
Voilà, une part du brevet.
De participer à cela. Si vous aviez des propositions à faire, enfin après cette réflexion dont on va revenir sur le coût économique, hein, bien sûr, en deuxième partie d'émission, qu'est-ce que vous diriez, et si vous avez un modèle dans un autre pays qui vous inspire par rapport à la promotion d'une innovation raisonnée, on va dire, ou raisonnable?
Il y a, enfin, on a un modèle qui est plus tellement français maintenant, puisque finalement on est régi par un certain nombre de grandes décisions européennes. Et donc la marge de manœuvre en France, elle est relativement limitée. Néanmoins, il y a un certain nombre de pays qui a pu construire au niveau, en effet, de ces jeunes pousses et de ces jeunes laboratoires issus de la recherche académique et issus et allant vers des médicaments ou des produits innovants, de mieux les développer. Et là, on a par exemple le modèle anglais qui est beaucoup plus souple et beaucoup plus fluide que le nôtre. Et puis on a un deuxième modèle qui est le modèle d'un petit pays mais extrêmement actif qui est la Hollande. Alors je m'explique. On a qui va révolutionner un peu cette recherche clinique et translationnelle, je l'évoquais tout à l'heure, la notion de grande base de données, hein, et de big data, qui va permettre non plus d'avoir une recherche par exemple sur une molécule ou de grandes cohortes ciblées sur tel ou tel type de pathologie, mais d'avoir d'énormes bases de données qui n'ont pas d'objectif précis au départ, qui recrutent à la fois des données sociétales, des données médicales, où il y a un prélèvement sanguin pour faire un peu de génétique, et qui permettent de confronter et d'avoir des analyses allant jusqu'à des séquençages de génome humain et de les mettre en corrélation avec la survenue d'un certain nombre de pathologies. Et donc ça va être une forme de recherche sans cible au départ et qui permet ensuite d'aller recueillir ce qui se passe dans la population générale. Et ça va changer profondément notre vie, y compris sur, par exemple, les aspects thérapeutiques.
Mais est-ce que le fait de penser que on va avoir une cartographie de la survenue dans 10 ans de telle affection, de telle maladie, n'est pas un doux rêve ? C'est-à-dire d'avoir tout inscrit comme ça.
C'est pas seulement avoir la prévision par la génétique de telle ou telle pathologie. Là, c'est probablement en effet notre avenir et n'est pas seulement dans nos gènes et heureusement. Mais c'est avoir ces grandes bases de données qui permettent de recueillir de l'information et ensuite d'aller voir ce qui se passe sur le rôle et de telle ou telle nouvelle thérapeutique en population générale. Et là, les Hollandais, eux, ont dit, nous, on n'a pas les moyens de monter tout ça, mais dans le cadre de l'échange de ces datas qui vont être maintenant sur la place publique, eh bien, on crée des équipes qui sont là pour traiter ces grandes bases de données. Pas pour les créer, pour générer le matériel, mais pour traiter ces grandes bases de données. Et ça va révolutionner complètement. C'est-à-dire que on peut imaginer qu'une série de grandes bases de données soit réalisée en France, en Espagne, en Italie, et que le traitement soit fait par des équipes en Hollande qui n'ont jamais participé à l'établissement de cette recherche.
Donc les Hollandais ont trouvé leur raison d'être.
Elle en a vu de toutes les douleurs. Elle est revenue de tant de combats et a tellement tendu son cœur là où d'autres ont baissé les bras. Elle dit qu'après certains regards, les mots deviennent dérisoires. On fait les choses parce qu'elles s'imposent sans se demander pourquoi. C'est peut-être une goutte dans la mer. C'est peut-être, oui peut-être, une goutte dans le désert. Oui mais c'est sa raison d'être. Oui mais c'est sa raison d'être. Oh, elle en a essuyé des yeux. Elle en a baissé des paupières. Oubliant même que le ciel est bleu. Attends se pencher dans la poussière. Elle dit qu'on peut toujours trouver des excuses pour ne pas bouger. Elle préfère encore se taire, faire ce qu'elle a à faire. C'est peut-être une goutte dans la mer. C'est peut-être, oui peut-être, une goutte dans le désert. Oui mais c'est sa raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Oui, mais c'est sa raison d'être. Ouais, on a brisé des silences, poussé des cris contre les murs. Avec pour écho l'indifférence et des rancunes encore plus dures. Car aujourd'hui, si l'existence ici ne se limite qu'à la survie, faut savoir qu'une aile de papillon peut tout changer pour de bon. C'est peut-être une goutte dans la mer. C'est peut-être goutte dans le désert.
France Culture, matière à penser, René Friedman.
Voilà, nous sommes donc dans cette émission qui concerne les questions éthiques autour de l'innovation dans le cadre de notre série sur la modernisation du système de santé en France. Cette approche est peu fréquente et elle est bien sûr menée par le Comité consultatif national d'éthique et nous recevons Jean-François Delfrécy avec nous qui a choisi ce titre, donc raison d'être de Obispo. Mais pourquoi cette chanson ?
Parce que Pascal Obispo nous a accompagnés au niveau de SIDAction. C'est mon ancien métier, si je peux dire, toute l'histoire du SIDA et d'avoir accompagné. Enfin, SIDAction est très particulier parce que il associe au sein d'une même association le milieu associatif et le milieu des chercheurs. Et ça illustre bien ce qu'on vient de dire. On ne peut construire que si on associe les deux. Et Pascal Obispo nous a accompagnés avec cette chanson à SIDAction.
Alors par contre, ce qui est plus secret et moins associatif, c'est la fixation du prix des médicaments ou des dispositifs qui aujourd'hui, on l'a vu donc dans ce que vous avez évoqué, Jean-François Delfrécy au début de l'émission, puis dans d'autres émissions de Matière à penser, que les innovations médicales, aussi séduisantes soient-elles, ont un coût énorme. Et la question c'est, qui fixe le coût ?
Oui, et peut-être avant de répondre à cette question, c'est de se dire que est-ce que le médicament est un enjeu en termes de coût ? On a longtemps pensé que les coûts de la santé étaient essentiellement liés aux aspects structurels et aux coûts de fonctionnement et aux coûts de personnel. Et que le médicament était finalement assez peu de choses dans le coût général de la santé. Je parle dans le modèle français, mais c'est vrai dans d'autres pays. Alors, ce qui va dans ce sens-là, c'est de, si on regarde ce que représente la part du coût du médicament dans les coûts généraux, c'est relativement assez stable, autour de 17 à 20 %. Hein, si on regarde au cours des dernières années.
20 % sont dépensés
de la santé
avec les médicaments. Et pourtant, on a fait les génériques.
C'est en fait un chiffre qui veut rien dire parce que on a énormément baissé le coût des médicaments, je dirais, tout venant. On a introduit les génériques qui ont fait baisser le coût. On a déremboursé un certain nombre de médicaments qui n'étaient pas justifiés, etc. Et à juste raison.
Est-ce que vous pensez qu'on a suffisamment ? Est-ce qu'il n'y a pas encore beaucoup de médicaments qui...
Il y a probablement encore, on peut encore faire, mais il y a déjà beaucoup qui a été fait hein, par les deux derniers gouvernements. Il y a vraiment déjà beaucoup qui a été réalisé. Mais donc du coup, il y a une masse de médicaments, je dirais, de base, dont le coût a considérablement baissé. Ce qui veut dire que dans le même temps, il y a le coût du médicament innovant qui fait la rupture en termes d'avancée thérapeutique, qui change la donne, on va revenir en donnant quelques exemples, eh bien lui est en train d'exploser. Il est en train d'exploser avec des coûts qu'on n'avait jamais connus. Hein. On parle là de plusieurs centaines de milliers d'euros pour un patient et par an. Hein. C'est-à-dire c'est des coûts. Et donc la question posée, pourquoi des coûts de ce type ? Qui fixe les coûts ? Ces coûts sont-ils justifiés ? Est-ce que notre système de santé est capable d'assumer des coûts pareils ? Et si on les assume, est-ce que ça ne se fait pas au détriment d'autres choix en santé qui ne réclament pas de thérapeutiques innovantes, mais par exemple la prise en charge des anciens dans les EHPAD, la prise en charge de la fin de vie qui ne réclame pas de médicaments innovants, est aussi un élément totalement essentiel. Donc les questions un peu de choix, entre guillemets, pose bien un questionnement éthique à un certain moment donné. Qui fait le choix ? Comment le fait-on ? Alors, le coût d'un médicament innovant. Le coût du médicament en France, il est absolument pas lié et il n'est pas du tout fixé sur le coût de la production du médicament. Il n'est pas lié à combien coûte la fabrication d'un médicament. C'est un package qui tient compte de l'ensemble de la recherche qui a pu être réalisée, que sur cette
des investissements.
Des investissements qui ont été réalisés, des investissements qui se sont faits et qui n'ont pas débouché sur d'autres médicaments qui ont été abandonnés, mais qui ciblaient la même thérapeutique. Et c'est un ensemble qui donc dépasse très très largement le coût de fabrication et qui prend finalement le coût intellectuel très large de qu'est-ce qu'apporte un médicament. Alors c'est fixé par un comité hein, qui existe en France, qui est le Comité économique de produits de santé, le CEPS, qui est un comité indépendant de l'industrie pharmaceutique, qui est géré par le ministère de la Santé et qui fixe, après avoir entendu l'arrivée de et la présentation par les industriels, qui fixe un niveau de prix. Ce prix tient compte aussi des antécédents qu'il y a déjà sur la famille de molécules.
Est-ce qu'on apporte quelque chose de nouveau?
Est-ce qu'on apporte quelque chose de
nouveau? Est-ce qu'il y a de l'innovation?
Et là, on a une deuxième grande instance française, qui est la Haute Autorité de Santé, l'HAS, qui fournit une sorte d'indice, entre guillemets, justement, est-ce qu'il est véritablement innovant ou pas innovant, hein, et fournit une classification auquel, évidemment, sont extrêmement sensibles les industriels, parce qu'en fonction du niveau de classification, eh bien, leur médicament est considéré comme innovant ou il ne l'est pas.
C'est-à-dire que s'il est considéré comme innovant,
le prix
va être
plus élevé, sera beaucoup plus libéré. Donc on est dans un système français qui est très encadré, hein. Voyons les choses en face aussi, on est dans un système quand même très d'État. Finalement, où nous payons tous à des degrés divers, par des mécanismes divers, dans le cadre du financement de la Caisse nationale d'assurance maladie, où l'ordonnateur des dépenses est un organisme d'État. On a, avec l'arrivée de ces médicaments innovants, on a changé complètement de niveau. C'est-à-dire que tout ce modèle qui était construit avec des coûts habituels dans une sorte de dialogue qui se construisait entre le CEPS et l'industrie pharmaceutique sur des médicaments standards est complètement battu en brèche par l'arrivée de coûts qui sont complètement différents. On est une fois de plus pas à quelques milliers ou dizaines de milliers d'euros pour un médicament et par patient et par an, mais là on parle de centaines de milliers d'euros.
C'est surtout valable dans le traitement du cancer.
Alors on va revenir sur lesquels. Est-ce que notre modèle français, la question qui est posée en fait, c'est est-ce que notre modèle français, public, payeur, donneur d'ordre, de contrôle, est-il bien adapté à cette révolution qui est en train d'exister du côté industriel, où en face de nous maintenant, on a des industriels qui ne font plus de médicaments, qui ne cherchent plus de médicaments, qui achètent des start-up et qui sont devenus des distributeurs de luxe, d'un haut niveau, hein, parce que le médicament est un produit qui doit être extrêmement sûr, pouvant dispenser tel ou tel type de médicaments. Donc la question posée, c'est véritablement, est-ce que ce modèle qui avait parfaitement bien marché jusqu'à maintenant, est-il totalement adapté, je dirais, d'une commande publique face à une évolution financière qui devient très très prédominante. Et alors, ce qu'on voit avec le sommet de l'iceberg, et on va le voir sur certains médicaments, on l'en parle pas du tout, mais il est aussi important sur les dispositifs non médicaux. Alors, quelques exemples. Les médicaments, tout a explosé, si je peux dire, avec l'arrivée des médicaments contre l'hépatite C il y a maintenant 5 ans. Ils sont arrivés les premiers médicaments qui étaient, on ne conteste pas l'innovation. C'est une innovation majeure.
Majeure,
puisqu'on est capable d'éradiquer.
On va éradiquer
à plus
cette maladie.
De 95%. Même... Donc voilà. L'innovation, elle est là. C'est vraiment une découverte et on doit l'accompagner. Question posée, est-ce que ceci justifie un prix au niveau auquel il était. Bon, deuxième exemple, c'est la révolution dans le cadre du cancer actuellement avec l'immunothérapie, où là aussi sur ces bloqueurs d'immune checkpoint bloqueurs, où on libère le système immunitaire, bon, qui sont en train de révolutionner le cancer, plusieurs centaines de milliers d'euros pour le traitement. Est-ce que c'est totalement justifié que ça soit une révolution? On est tous d'accord. Que ces médicaments aient un certain prix, on est tous d'accord. Est-ce que le niveau auquel il est vendu, qui fixe le prix? Comment est-il fixé? Est-ce que, en sachant que la fabrication de ces produits, c'est de l'ordre de quelques centaines d'euros?
Vous avez travaillé justement dans le domaine du sida, et vous avez vu ce problème pour les pays qui, eux, n'avaient vraiment pas un penny pour acheter les médicaments. Donc toute cette campagne qui a fait que le coût du traitement du sida a quand même bien évolué, a bien diminué, particulièrement pour des pays qui n'avaient absolument aucun moyen et qui pourtant étaient très atteints. Donc là c'est pareil, parce qu'on parle même de nous, enfin, je veux dire, pays quand même riche. Mais alors, le traitement du cancer par les voies immunologiques que vous évoquez dans les pays du Sud, on n'y pense même pas.
Ah, on n'y pense même pas. Alors, l'histoire du sida est intéressante parce que c'était une vraie révolution. Hein. Elle était comparable à celle de l'hépatite C dans les années 97-98. Et on avait les médicaments au nord et l'épidémie était au sud. Donc, comment avoir accès pour les millions, les 32 millions de personnes qui étaient atteintes par le VIH au Sud, comment leur donner accès aux médicaments. Et ça a été une bataille très rude, c'est-à-dire qu'il a fallu rompre la notion de brevet, avec évidemment l'industrie pharmaceutique s'est défendue, puis finalement l'ensemble du milieu associatif des différents pays a fini par gagner pour pouvoir fabriquer des génériques à un coût qui était en effet un coût beaucoup plus faible, puisque le coût du médicament, une fois de plus, ne reflète absolument pas le coût de fabrication du médicament. C'est ça, c'est cette différence. Le coût de fabrication, quelques centaines de dollars ou d'euros, et le coût du médicament, dizaines de milliers d'euros à l'époque, et maintenant centaines de milliers d'euros. Et donc, ça a été, c'est la première fois, tout le monde disait qu'on ne pourrait pas rompre la notion de brevet, elle a été rompue. L'industrie pharmaceutique, d'ailleurs, en a tiré un certain nombre de leçons, devant cette défaite, entre guillemets, juridique au plan international, puisque finalement, elle-même, est dans le traitement de l'hépatite C, alors qu'il y a eu beaucoup moins de batailles pour avoir un accès et une diminution des coûts de la part de l'industrie sur des pays qui sont touchés par l'hépatite C, comme l'Égypte, par exemple. Et c'est d'ailleurs un des arguments aussi des industriels. C'est de dire, ah ben il faut bien nous laisser un coût au Nord très important, puisque vous voyez qu'on rend aussi un service avec des coûts dans les pays du Sud qui est plus à la disposition des citoyens du Sud. C'est un bon argument. Sauf que même au Nord, ce n'est plus possible. C'est-à-dire que si on fait le calcul de ce que va représenter le traitement du cancer avec ces nouvelles stratégies d'immunothérapie, on va passer, je crois, d'un coût de en gros, la masse budgétaire des coûts médicaments en général que j'évoquais au début, il est de l'ordre de entre 35 et 40 milliards d'euros par an en France par rapport au coût général du coût de santé. Et là, on risque de le faire monter par 2 ou 3 dans les 3 années qui viennent. Donc, comment fait-on? Pourquoi un tel prix? Et la question, c'est oui à l'innovation. Continuons l'innovation, mais avec un juste prix.
Alors, c'est effectivement une bonne thématique. Je ne sais pas quelles alternatives on peut trouver, en tous les cas, pour... je suppose que... Vous avez déjà discuté de ce point-là au comité ou vous allez le faire?
On est en cours de discussion.
Ah, d'accord.
On est en production d'un avis, probablement pour l'automne, sur le sujet. Et l'idée étant de faire bouger les lignes. Et une fois de plus, on a les outils en France. Je les ai évoqués tout à l'heure pour la fixation du coût. Je ne suis pas non plus en train de... Nous avons besoin des industriels. La Big Pharma ne doit pas être jetée dans la poubelle. J'ai beaucoup travaillé avec les industriels et ils sont absolument nécessaires. Mais est-ce que le médicament est un produit comme les autres ?
Question en amont, c'est que pour démontrer l'efficacité d'un médicament, qui reste quand même à la base de toute notre réflexion, sinon c'est pas fun de faire l'innovation, il faut des essais cliniques. Les essais cliniques sont pilotés par l'industrie pharmaceutique pour beaucoup. Donc ils vont piloter que les essais qui les concernent dans une perspective commerciale, sinon ils y participent pas. Et donc l'inverse est que aussi... pour le patient et pour le système français, il faut accepter et passer par un certain nombre de preuves avant d'accepter le remboursement du médicament. D'où ce qui a été proposé il y a quelques années en France, j'aimerais avoir votre opinion, ce qu'on appelle les ATU, c'est-à-dire l'autorisation temporaire de mise sur le marché de médicaments qui n'ont peut-être pas encore tout à fait faire leur preuve en bonne et due forme, mais qui sont des nécessités presque vitales, en tous les cas à tester, parce qu'on n'a pas d'autres alternatives. Donc est-ce qu'il y a des formes d'accélération, je dirais, d'appréciation de l'efficacité des médicaments? Et deuxièmement, si tel est le cas, par exemple, ces compagnies qui disent bah, on fait un essai, si ça marche, vous payez, si ça marche pas, on prend pour nous.
Alors, deux choses. Le modèle d'évaluation du médicament est en général porté par l'industrie pharmaceutique. Il est porté à la fois pour les phases 1 et 2, il est porté aussi, et là c'est, on pourrait probablement changer les choses, dans les phases 4, c'est-à-dire qu'une fois que le médicament a eu une mise sur le marché, de savoir ce qui se passe dans la vie en vrai. Moi, je fais partie de ceux qui considèrent que la recherche publique devrait avoir aussi un rôle à jouer dans l'évaluation du médicament.
Ouais,
alors, je l'ai fait quand j'étais directeur de l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites, mais c'est un modèle quasi unique d'agence d'État s'étant impliquée dans l'évaluation de stratégie thérapeutique. Chacun son rôle. On n'était pas fabricant de médicaments, mais on posait la question de l'indication de tel ou tel médicament dans tel ou tel point. Parce que ça permet d'avoir une vision qui est différente de celle de l'industriel, qui est complémentaire, qui peuvent se rejoindre, mais qui est complémentaire. Donc, et certains pays l'ont, par exemple, aux États-Unis, dans un modèle privé, très capitalistique, etc., la FDA et les grands organismes de recherche comme le NIH ont une vision, je dirais, avec une vision de étatiste, entre guillemets, centralisée, hein, dans ce pays très particulier que sont les US, et pour justement l'évaluation d'un certain nombre de médicaments, plus qu'on l'a en France par certains côtés. Hein. Donc c'est assez intéressant en termes culturels.
Donc votre idée, c'est que l'évaluation de l'efficacité de la mise en œuvre d'un médicament dans sa dernière phase devrait peut-être être sous un chapeau plus public.
Je pense que autant les phases initiales sont des phases qui sont évidemment portées par le fabricant du médicament, et donc c'est à l'industriel avec un contrôle qui est réalisé par les agences d'État. Mais autant dans ce qui se passe dans les phases, ce qu'on appelle les phases 4, c'est-à-dire la vie en vrai, un médicament, une fois qu'il est mis en population générale, ou en tout cas dans la population des patients, eh bien l'évaluation des effets secondaires à long terme, etc., devrait faire plus l'objet d'une évaluation d'agences d'État. Et ce, quel que soit le domaine, et ça commence d'ailleurs à se faire. Alors en ce qui concerne les ATU, oui, c'est une avancée importante, hein. Elle est aussi issue du sida, hein. C'est comment peut-on avoir accès pour les patients alors même que toutes les étapes ne sont pas franchies et qu'il n'y a pas encore la phase d'AMM. Les ATU sont de deux ordres, elles sont soit ATU nominatives pour tel ou tel patient, soit ATU de cohorte pour une cohorte de patients présentant, et elles sont gérées par les industriels. Et il faut qu'elles se poursuivent. Le modèle s'est légèrement modifié là avec les dernières modifications de la loi, mais il se poursuit. Il se produit dans tous les domaines là maintenant. Il se poursuit en particulier dans le cancer avec les nouvelles molécules. Mais là aussi, au niveau financier, les ATU ont un coût et les industriels ne financent pas les ATU. Ils les comptabilisent à la caisse d'assurance nationale d'assurance maladie.
D'où peut-être, hein, le fait que
et
le
c'est là où d'ailleurs on voit reprendre le prix où on s'inquiète, et les premières inquiétudes sur l'hépatite C, je me souviens très bien, c'est quand il y a les ATU de médicaments sur l'hépatite C, et on a vu sortir les premiers prix d'ATU, on s'est dit, ah mais attention, s'ils sortent ça sur les prix d'ATU, ils vont le sortir sur le prix du médicament. Donc c'est aussi pour les industriels une façon de commencer à se rendre indispensable, entre guillemets, et de fixer un prix très élevé.
Et en même temps, on peut pas attendre trop pour certains
patients.
Et
c'est fondamentalement une avancée pour l'ensemble des patients.
Voilà. Bon, eh ben, je vois que le Comité consultatif national d'éthique a du pain sur la planche, si je puis dire, à essayer de donner un avis que nous attendrons avec plaisir en octobre. En tous les cas, cette émission a été innovée par Sandrine Chaperon, Catherine Donnet, Joséphine Lampréa, Dany Journeau, Emmanuel Couturier. Et vous pourrez réécouter toutes ces informations sur notre page internet, et ce autant que vous le souhaitez, puisqu'elle s'inscrit dans un cadre de matière à penser consacré aux modernisations du système de santé en France. En tous les cas, rendez-vous sur le site internet franceculture.fr et rendez-vous dans nos prochaines émissions.